Delroy, nous allons faire un film fantastique.
Depuis Garbo, les actrices ont gardé ce mystère, ont gardé quelque chose de vraiment à elles, une personnalité.
Je crois que c'est pour ça que des milliers de gens aiment le cinéma, pour s'oublier eux-mêmes dans l'émotion due à la contemplation d'un groupe.
Zone B, Wes Craven. Triste nouvelle, Wes Craven est décédé le 30 août dernier suite à une tumeur au cerveau. Je ne vais pas m'épancher sur sa mort, mais plutôt essayer de rendre hommage à l'un des plus excitants cinéastes de sa génération. Wes Craven occupait une drôle de position au sein du cinéma d'épouvante, qui certainement lui allait comme un gant, connaissant l'esprit roublard et aiguisé d'un cinéaste beaucoup plus complexe que certains aimaient le laisser entendre. Il était à juste titre considéré d'un côté par une tripotée de fans et une poignée de cinéphiles comme un maître incontestable du genre, et de l'autre par la communauté cinéphage gardienne du temple du cinéma d'épouvante, comme un cynique, un opportuniste parfois talentueux, mais qui au fond n'aimait pas les films qu'il réalisait. On retrouve d'ailleurs souvent les mêmes critiques à l'égard de l'auteur toujours controversé de La Colline à des yeux, peut-être parce qu'il fut l'un des premiers, par sa dimension politique, sociale et philosophique, à être défendu par la critique institutionnelle, en l'occurrence les cahiers du cinéma, qui ont toujours défendu l'auteur de ce crime. Peut-être davantage au fond qu'un Tobe Hooper ou un George Romero. Allez, on va parler au présent, car si les cinéastes meurent, les films, eux, restent, imprimés quelque part dans un coin de nos têtes. Wes Craven est un intellectuel, et on lui reproche souvent, car il est bien connu qu'une personne qui active constamment sa matière grise ne touche pas au sensible, ne peut être considérée sincère dans sa démarche. Sûr, il n'appartient pas à la vague des cinéastes cinéphiles béats d'admiration devant leurs aînés et constamment dans un rapport à fleur de peau avec les films qui les ont fait vibrer. Craven est l'antithèse de Joe Dante, Tim Burton, Steven Spielberg, voire même de Palma ou Carpenter, avec qui néanmoins il partage des idées politiques similaires. Revenons à la source. Craven Wesley, de son prénom d'origine, est né le 2 août 1939 à Cleveland, dans l'Ohio. Il grandit dans une atmosphère religieuse très stricte qu'il rejettera assez rapidement et qu'il ne cessera de critiquer durant toute sa carrière. Il débute sa carrière comme professeur de guitare à Chicago avant d'entrer à l'université Johns Hopkins du Maryland. Il obtient alors une maîtrise de lettres et de philosophie et enseigne les sciences humaines au collège de Westminster et Clarkson. Après la réalisation d'un court-métrage en 16 mm pour une association d'étudiants, il abandonne l'enseignement et décide de se consacrer corps et âme au cinéma. Il se rend à New York et, après avoir supervisé quelques documentaires, il rencontre Gene Cunningham, le papa de Vendredi 13, qui l'engage comme assistant producteur sur son film porno Together avec la mythique Marilyn Chambers. Gene Cunningham produit son premier long métrage pour la somme dérisoire de $90,000. Le film en rapporte alors plus de 20 millions. Il s'agit au départ d'un pur film d'exploitation, d'un remake crapoteux de La Source de Bergman dans lequel les parents d'une jeune fille violée et assassinée recueillent les meurtriers et décident de se venger de la manière la plus bestiale qui soit. Un vrai choc en dépit de faiblesses évidentes liées à l'amateurisme parfois trop visible du projet. Le film, bien sûr, demeure le cultissime La Dernière Maison sur la Gauche.
Marie, Phyllis, deux amis.
Je me sens femme pour la première fois de ma vie.
Deux jeunes filles, deux banlieusardes qui décident d'aller en ville pour s'amuser.
Je vous présente mon copain Wiesel.
Salut.
Ça, c'est ma sœur, Martha. Oui, elles sont venues voir si on peut leur filer de l'herbe.
Quatre tueurs, quatre évadés de prison. Eux aussi veulent s'amuser. Ils se retrouvent tous dans La Dernière Maison sur la Gauche. Ce qui avait commencé par un anniversaire va devenir un cauchemar.
Merci. Tiens, c'est un cadeau pour toi.
J'en veux pas.
Mais si, prends-le.
J'en veux pas.
Je veux être ton ami. Je veux être ton ami.
Je tirais.
Qu'est-ce qu'il y a?
Rien.
Que se passe-t-il dans La Dernière Maison sur la Gauche?
Nous ne voudrions pas vous déranger, monsieur. Mais non, je vous en prie, vous êtes chez vous ici.
J'ai toujours rêvé d'un homme qui pourrait m'apprendre les plaisirs de l'amour.
Qu'arrive-t-il dans La Dernière Maison sur la Gauche?
Non, je vous en prie.
Assez.
Personne sensible, abstenez-vous de voir la dernière maison sur la gauche. Mais ce n'est que du cinéma. Du cinéma.
Après La dernière maison sur la gauche, Craven va accepter une commande en 1975, soit un porno vaguement intello et marginal, The Firework Woman. Le cinéaste a renié ce film qui n'apparaît nulle part dans sa filmographie, que ce soit sur Wikipédia ou IMDb. Mais l'objet du délit bénéficia néanmoins d'une distribution DVD, puisqu'une copie illégale circule depuis quelque temps sur le net. Ayant vu la chose, je dois vous prévenir que ce n'est pas très intéressant, correctement réalisé, mais d'une mollesse assez affligeante. Et on comprend que Wes Craven renia quelque peu ce film.
Gilderoy, nous allons faire un film fantastique.
Depuis Garbo, les actrices ont gardé ce mystère et ont gardé quelque chose de vraiment à elles, une personnalité.
Je crois que c'est pour ça que des milliers de gens aiment le cinéma, pour s'oublier eux-mêmes dans l'émotion due à la contemplation d'un groupe.